Chapitre 6. Monsieur le maire reprend son récit. Nous rentrâmes dans la ville par la poterne des piétons qui est près de la porte Saint-Lambert. Je l'avouerai sans plus de honte, la peur me secouait de la tête aux pieds. Que voulez-vous ? On fait son devoir, tout son devoir, mais après tout, on n'est qu'un homme. J'avais peur, mais enfin, j'allais de l'avant. N'est-ce pas assez ? Quant à monsieur le curé, il ne desserrait pas les dents. S'il avait peur, lui aussi le cachait, comme moi. Du reste, sa profession le fait vivre sur la frontière du monde des fantômes. De l'agonie à la mort, de la mort au cimetière, il s'entretient familièrement avec les âmes. Des mois, des années après la mort, il reste en contact avec elles. Il croit qu'elles peuvent encore souffrir et que les prières du prêtre leur sont bienfaisantes. Pour moi, je n'en suis pas là, mais je n'ai pas encore d'idée bien arrêtée sur toutes ces choses. Évidemment, tout devient très simple dès qu'on peut croire sincèrement tout ce que l'Église enseigne. Plus de mystères déconcertants, plus de questions torturantes. La vie d'outre-tombe rejoint naturellement la vie d'ici-bas, et ce qu'ils appellent la communion des saints dénoue l'énigme la plus troublante de ce monde. Mais quand on est réduit comme moi à ses propres lumières, on se trouve souvent dans un embarras inextricable. Rien ne se tient, tout se contredit et l'on voit s'évanouir les unes après les autres les frêles philosophies auxquelles on a tâché de s'appuyer, trop heureux si, parmi cet amas de ruines, brille toujours la claire lampe du devoir. Du chaud soleil que nous respirions tout à l'heure, nous étions rentrés dans le brouillard et dans la nuit. Autour de nous régnait un profond silence. Personne. Qu'était devenue cette foule que je m'aguerrissais à rencontrer et vers laquelle nous allions, monsieur le curé et moi, avec autant de ferveur que d'épouvante? À chaque seconde, à chaque pas, il nous semblait que l'occasion allait surgir de tendre toutes nos forces et de raidir notre sang-froid. Mais non, rien, absolument rien. Tout était parfaitement calme. Aucun bruit ne venait des maisons ouvertes devant lesquelles nous passions. Monsieur le curé m'a dit depuis qu'il croyait qu'ils étaient là, mais invisibles. Mon impression à moi était toute contraire. De la pression d'une invisible multitude, j'avais déjà fait l'expérience. Eh bien non, non, ce n'était plus du tout la même chose. Je crois vraiment qu'il n'y avait personne. Nous nous étions arrêtés, après une centaine de pas, et adossés aux murailles, nous inspections les environs. Le brouillard avait fait place à un pâle crépuscule qui nous permettait de voir distinctement toutes les choses. J'ai déjà dit que les portes et les fenêtres étaient ouvertes. Une ville endormie fait toujours un spectacle étrange. Mais il plane autour d'elle je ne sais quelle impression de chaleur, de vie latente. On croit entendre la respiration paisible de tout un peuple. Mais aujourd'hui, rien de tout cela. Comment vous dire l'effet que produisaient sur nous les portes ouvertes de ces maisons désertées ? Ouvert l'orgueilleux portail de l'hôtel de bois sombre, si jalousement fermé d'ordinaire. Ouverte aussi ma maison, et jusqu'à ses fenêtres que ma mère faisait toujours fermer de si bonne heure pour éviter le serein. Une sorte d'horreur me figeait sur le seuil de ma propre demeure, tombe désolée peut-être où gisaient des morts. Ouvertes enfin les grandes et les petites portes de la cathédrale. Notre ville nous semblait immense et personne, personne, pas une ombre, pas un bruit. Nous restâmes longtemps immobiles. Que faire ? Je n'avais même pas la force de dire une parole malgré le flot de sentiments et de pensées qui m'accablaient. La voix de monsieur le curé, rompant soudain ce redoutable silence, me glaça de peur. Les spectres n'allaient-ils pas paraître, réveillés par cette interruption sacrilège? À quoi bon notre ambassade, avait-il dit, nous sommes venus pour rien. Pour rien, pour rien. Oh, ces deux mots envoyés par mille échos inconnus retentissaient indéfiniment à nos oreilles. Tout courageux qu'il soit, monsieur le curé tremblait comme moi. Instinctivement, nos mains se rapprochèrent et s'étreignirent. J'entendais les battements de son cœur et il entendait les miens, sans doute. Nous reculâmes de quelques pas, mais pourtant face au danger. J'avais les lèvres sèches et mes idées battaient la campagne. Cependant, mon silence me faisait honte. Trop tard, dis-je, effrayé par ma propre voix. Est-ce donc trop tard? Les Camus doivent s'être abusés. Chose étrange, à cette fois aucun écho ne répondit, et ce fut pour nous deux plus effrayant que les résonances indéfinies de tantôt. Il nous semblait que ces êtres, reculant à leur tour devant nous, s'enveloppant, se pelotonnant dans leur silence, attendaient avec un calme chargé de menaces l'heure fatale où ils nous donneraient leur réponse. Nous étions là, au coin de la place, la main dans la main, épaule contre épaule, faibles comme des enfants qui sentent gronder la colère de leur père. Je dois dire que monsieur le curé paraissait plus calme que moi. Il dardait ses regards dans le vide avec une ardeur de curiosité qui tendait toutes les fibres de son être. Autour de nous, le silence et la solitude se faisaient de seconde en seconde plus épais et plus accablants. N'y tenant plus, avançons, lui dis-je, et nous avançâmes, trébuchant à tous les pas. Maintenant, nous avions peur de ces maisons vides que nous laissions derrière nous, peur de ceux à qui nous tournions le dos et qui peut-être nous guettaient de toutes ces fenêtres béantes. Arrivé de ma propre maison, j'entrais d'un mouvement mécanique sans presque me rendre compte de ce que je faisais. Personne, personne. Je fis avec surprise le tour de ces chambres vides. Il n'y avait personne, tout était à la même place. Bon, je me trompe, dans la bibliothèque où de père en fils nous vaquons à nos affaires, quelque chose était changé. Le vieux bureau où mon grand-père aimait à s'asseoir, près duquel il m'a si souvent fait sauter sur ses genoux, et que j'avais relégué au grenier pour le remplacer par un meuble plus moderne, le vieux bureau se carrait maintenant, comme jadis, au beau milieu de la pièce. Oh, j'eus un coup au cœur en l'apercevant. Ce n'était rien, mais que ce rien était lourd de sens. Des tiroirs ouverts s'échappaient de vieilles liasses de papier que je parcourus fiévreusement, dans l'espoir de trouver quelques mots, quelques messages à mon adresse. Il n'y avait rien, rien que cette preuve muette de leur séjour dans la maison. Je ne dis rien de cela à monsieur le curé, resté en sentinelle sur le seuil de la porte. Enfin, j'entrai dans la chambre de ma femme. Son écharpe était jetée sur le lit, son bracelet, ses boucles d'oreilles attendaient sur le guéridon. On aurait dit qu'elle venait à peine de sortir. Mais chez elle, je ne respirais pas cette sorte d'horreur qui remplissait le reste de la maison. Un frais ruban, quelques bijoux, était-ce de tel rien qu'émanait la calme douceur de cette chambre? Un coin de cette chambre est pour nous comme un sanctuaire, C'est le panneau où nous avons suspendu le portrait de notre petite Marie. D'ordinaire, une broderie exquise voile cette image, car mon Agnès elle-même n'a pas toujours le courage de regarder les traits de cet ange disparu. C'est elle qui l'a caché de la sorte sous une gerbe de lys qu'elle a brodée elle-même, et nulle autre main que la sienne n'écarte jamais les plis de ce voile. Mais quelqu'un était venu là. L'image de mon enfant me regardait, libre de tout voile, et je vis au bord du cadre une branche d'olivier aux feuilles d'argent. Oh, ici, je ne sais plus rien, sinon que je poussais un grand cri et que je tombais à genoux devant ce présent des anges. Quel étranger aurait-il pu comprendre ce qui se passait alors dans mon cœur? Monsieur le curé, un ami, un frère pourtant, était accouru auprès de moi, blême d'émotion. Il me vit, mais aussitôt il détourna la tête en étouffant un sanglot. Ni de la terre ni du ciel, aucun enfant ne l'avait jamais appelé du nom de père. Aucune branche d'olivier, apportée par une petite main infiniment tendre, ne l'attendait dans sa maison. Je quittai la chambre, en prenant soin de fermer la porte pour que rien ne fût changé quand ma femme reviendrait. Je pris le bras de monsieur le curé et nous descendîmes dans la rue. Dès cet instant, nous étions comme deux frères et cette union nous rendait plus forts. Le silence et le vide nous faisaient moins peur. Nous avions repris chacun notre voie naturelle, bien que par moments encore cet éclat nous fit trembler. Étions-nous sûrs de notre délivrance? Moi, j'avais le cœur en morceaux et je pleurais. Il se montra plus homme que moi. Martin Dupin, me dit-il à brûle-pourpoint, c'en est assez. Nous sommes là à nous frapper nous-mêmes, à trembler devant nos ombres. Notre voix même nous fait peur. Assez, assez. Quels qu'aient été ceux qui ont occupé ce mur, leur visite est achevée, ils sont partis. Je le crois aussi, fis-je d'une voix faible, mais Dieu seul le sait. À ce moment même, quelque chose passa près de moi, un souffle, un rien, mais quelqu'un pourtant. Je fis un bond de terreur et je me voilai la face d'une main, pendant que de l'autre je me cramponnais au bras de mon ami. Monsieur le curé me regarda d'un air sauvage, comme un homme hors de lui. Il tapa du pied sur le pavé. Mon Dieu, criait-il d'une voix amère, ainsi donc à moi, rien, absolument rien, ne sera révélé. De le voir ainsi, lui, s'y mettre de lui jusqu'à cette heure, céder enfin à la passion qui le minait, et d'entendre de lui un tel cri de révolte, cela me rappela à moi-même. Cette torture, je l'avais lue si souvent dans ses yeux. À lui, prêtre, à lui, serviteur du monde invisible, à lui, presque seul peut-être, ce mystère restait fermé. Une immense pitié m'envahit le cœur et me rendit fort. Mon frère, lui dis-je, nous sommes tous des malheureux, à quoi nous fier? Si les yeux s'ouvraient devant nous, serions-nous sûrs que nous ne faisons pas un rêve? Notre imagination est si puissante. Mais enfin, pour l'instant, tout nous fait croire qu'il n'y a plus que nous à ce mur. Allons, mon ami, c'est vous qui avez soutenu notre courage. Rappelez-vous votre psaume, Laetatus sum. Je suis dans la joie. Ne pensez plus qu'à cette joie et conduisez-moi à la cathédrale. Visiblement, je ne parlais pas de moi-même, car ces idées religieuses me sont moins que familières, mais c'était mon tour de rendre cœur à ce malheureux. Nous traversâmes donc la grande place silencieuse et nous montâmes lentement les degrés de la cathédrale. Sans nous être plus rien dit l'un à l'autre, une même pensée nous conduisait. Il faisait très bon dans notre vieille église. De vagues traînées d'encens flottaient dans l'air, et je crus entendre les dernières vibrations de la psalmodie qui s'éteignait au plus haut des voûtes. Il dit sa messe, que je lui servis. Je n'avais obéi qu'à une impulsion de piété envers un ami. Néanmoins, j'eus aussi ma récompense. Il me semblait que j'avais déposé au seuil de l'église le fardeau de mes peines, de mes inquiétudes et de mon angoisse en face du mystère. Les jours de ma petite enfance étaient revenus. Les cierges, le missel, le calice, j'étais l'enfant de cœur d'autrefois, heureux, candide, et qui ne connaissait pas le doute. Derrière moi, mon père, agenouillé au premier rang des fidèles, inclinait la tête pendant l'élévation avec une piété que rendait plus douce ma présence au pied de l'autel. Jamais, depuis ce temps-là, je n'avais plus servi la messe, et tant de souvenirs m'attendrissaient. Des larmes étouffaient la voix de monsieur le curé. À genoux, sur les degrés, je pleurais aussi. Alors, un bruit éclata qui fit bondir notre cœur dans notre poitrine. Les cloches de la cathédrale sonnaient, douces d'abord et presque mourantes. On aurait dit les adieux lointains d'une troupe d'exilés, puis bientôt elles exultèrent, joyeuses, triomphantes, comme les cloches de Pâques, et balayant de leurs vibrations victorieuses la désolation qui pesait encore sur la ville. Pour moi, je ne songeais pas à résister à cette merveilleuse influence. L'atroce cauchemar avait disparu, faisant place à l'illusion la plus délicieuse. Petit enfant au beau surplis, je servais la messe. Mes parents bien-aimés priaient à genoux derrière moi, et du haut du ciel, le bon Dieu nous souriait. Nous sortîmes de la cathédrale, accompagnés par le dernier murmure des cloches. Au pâle crépuscule de tout à l'heure avait succédé la lumière d'un beau matin. Bras dessus, bras dessous, et sans nous rien dire, nous prîmes le chemin de la porte de Saint-Lambert, pressés de dire à nos amis que ce mur leur était rendu. Je dois noter ici un incident minime qui ne laissa pas d'avoir des suites assez importantes. Comme nous passions devant l'hôpital Saint-Jean, nous entendîmes distinctement une plainte impatiente qui venait de l'intérieur. Cette voix faillit un instant renouveler nos terreurs disparues, mais rien qu'un instant. Non, ce n'était pas là la voix d'un fantôme. La grave figure de monsieur le curé s'éclaira d'un sourire, et moi-même je me vis sur le point de rire aux éclats à cette brusque rencontre du réel détonnant soudain et rompant le dernier charme de l'invisible. Libre désormais de toute obsession, nous entrâmes dans l'hôpital sans plus de peur que si rien d'anormal ne s'était passé parmi nous. Dans un petit retrait qu'un rideau séparait du grand dortoir, un malade s'agitait sur son lit. « Ah, c'est monsieur le maire, » dit-il en nous apercevant. « À la bonne heure, oh, j'avais précisément à déposer une réclamation contre les religieuses. » La nuit venue, elle court s'amuser ailleurs et plante là les pauvres malades. Elle savait bien hier au soir que je ne dormirais pas. Croyez-vous qu'elles aient songé à me donner un calmant ou à me tenir compagnie? Alors donc, est-ce qu'elles s'en moquent? Et aujourd'hui, les grands matins, on les a pas encore vus. Je lui dis quelques mots de compassion, qui sans doute lui parurent un peu exagérés, car elle ajouta aussitôt. « Oh, c'est pas que je veuille me plaindre d'elle. Quoique les religieuses se soient un peu relâchées dans ces derniers temps. Et puis je les aime mieux que les infirmières qu'il est question de faire venir. Après tout, oh, pour une nuit qu'elles m'ont laissée, je voudrais pas faire d'éclat. Mais diable, monsieur le maire, ces cloches, ces maudites cloches qui veulent pas s'arrêter, elles m'ont mis la tête en marmelade. Le moyen de dormir avec ce vacarme dans les oreilles. Nous nous regardâmes, monsieur le curé et moi, en souriant. Ces chères cloches, qui nous avaient rendu la joie en sonnant notre délivrance, avaient empêché ce pauvre garçon de dormir. Elle s'était tue maintenant, et pour la première fois depuis ces terribles jours, la grande horloge sonna l'heure. Un dernier nuage, un lambeau de brouillard peut-être, s'évanouissait dans le ciel. Ce mur ressuscitait dans le soleil de midi. Chapitre 7. Note supplémentaire de Monsieur le Comte de Boissombre. Quelque chose me serrait le cœur quand je vis Martin Dupin disparaître dans le brouillard. Bien que nous n'appartenions pas au même monde, il est de mes amis. Sa famille, d'ailleurs, est des plus respectables. Et puis quel brave homme! Depuis 3 jours, il s'est conduit en véritable héros. Il m'a choisi pour tenir sa place. À la vérité, jusqu'ici, je n'ai jamais voulu prendre la moindre part aux affaires de la commune. Abstention, c'est ma devise, aussi longtemps que durera l'affreux régime qui nous mène à la perdition. Mais, quand l'occasion est grave, je ne suis pas homme à me laisser arrêter par mes scrupules. Martin a-t-il eu raison d'écouter les avis de cette âne de Paul le Camus? Un visionnaire, je n'en sais rien. J'ai laissé faire. Un jour de plus et j'aurais proposé de donner l'assaut à la ville. Je ne voudrais pas manquer de respect à nos ancêtres, mais enfin, ils ne devraient pas abuser de leur position. Je me suis montré ni plus ni moins brave que les autres, mais je commençais à l'avoir par-dessus les yeux. 3 jours et 3 nuits, à prendre racine devant ce rempart, loin de madame de Boissombre et de mes enfants, heureusement recueillis, j'ai hâte de le dire, dans la maison de campagne de ce bon Dupin. Pour en finir, j'étais prêt à tout. Bref, le prêtre était trop fâché de la décision prise, et puisqu'aussi bien on ne me demandait aucune promesse d'adhésion à la République, j'acceptais de remplacer mon ami Martin auprès des gens de ce mur. Quant à l'écharpe municipale que cet excellent homme proposait de me passer, je n'en voulus pas. En bourgeois qu'il est, il attache une valeur religieuse à ce chiffon tricolore. Je n'en avais nul besoin, et il aurait trop souffert de s'en défaire. Je pris donc la tête du cortège qui accompagnait nos 2 ambassadeurs. La porte Saint-Lambert n'était pas visible et nous nous arrêtâmes prudemment à une certaine distance de l'endroit où nous conjecturions qu'elle devait être. Là, nous leur dîmes adieu, non sans émotion, et ils disparurent dans les ténèbres. Jusqu'à la dernière minute, je me demandais s'ils pourraient entrer dans la ville. Mais lorsque je dus me rendre à l'évidence, la pensée du danger qui les menaçait peut-être me bouleversa, et ne voulant plus être complice d'une telle catastrophe, je poussai un grand cri pour les rappeler. Ils n'étaient pas seuls sur la pente de cet abîme, et c'est là ce qui redoublait étrangement le poids de ma responsabilité et de mon angoisse. Madame Dupin de la Clairière, cette femme si comme il faut et d'une distinction si rare, s'était glissée avec un dévouement pathétique sur les pas de son mari, et elle aussi nous la voyions s'engager dans les ténèbres maudites. Le pauvre Dupin ne l'avait pas vu, absorbé qu'il était par l'horreur de son entreprise et par les efforts désespérés qu'il faisait pour ne pas faiblir. Elle était entrée avec eux, où les femmes sont capables de tout. Par bonheur, cette même force dont nous avions tous fait l'expérience la cloua bientôt sur place. Elle s'arrêta, soudain toute douloureuse, mais divinement calme. Elle agita ses bras en signe d'adieu. Puis, sans revenir à nous, elle s'assit tranquillement sur la route, à l'extrême limite du cercle fatal. Oh, et ce fut un soulagement de la voir là, si paisible, à la frontière du mystère entre la ville des morts et nous. Mais tant d'émotions nous avaient brisés. Que faire pour arrêter la réaction inévitable qui allait suivre et dont je sentais autour de moi des symptômes trop évidents? Après cette brusque poussée d'espérance, le découragement revenait dans tous les cœurs. Que faire? Les distraire en organisant de nouveau le service des patrouilles? N'y fallait pas songer. Dupin s'y était obstiné avec l'entêtement machinal des bourgeois de France, toujours prêts à recommencer indéfiniment la même besogne vaine pour se persuader à eux-mêmes qu'ils font quelque chose. Mais je ne suis pas taillé sur ce patron-là. Mieux vaut se croiser les bras que de faire gravement des riens. Ah, le Didium nous avait laissés dans un fameux pétrin. Déjà la débandade commençait. Plus sous que jamais, Jacques Richard invitait tout le monde à le suivre au cabaret. « Allons boire !» criait-il, « à la santé de monsieur le maire et au succès de son ambassade auprès de messieurs les morts !» Nombre de Sumurois faisaient allègrement mine de le suivre, oubliant leur terreur et les menaces qui restaient suspendues sur nos têtes. Oh, c'était plus que je l'en pouvais tolérer. Notre commissaire de police avait disparu dès le premier jour, digne fonctionnaire du présent régime. J'avisais dans la foule un employé de l'octroi. « Rioux, lui dis-je, arrêtez cet individu et tenez-le sous l'attente dans l'impossibilité de nuire. Que deux hommes montent la garde près de lui. » Ensuite, j'envoyais un messager à la clairière pour annoncer aux religieux de Saint-Jean la décision qui avait été prise au sujet de l'hôpital et pour leur demander de nous revenir au plus vite. Quel dut être le résultat de l'ambassade de Martin? Il nous serait bon d'avoir ces saintes femmes avec nous. Et maintenant, ajoutais-je, libre à chacun de vous de prendre un peu de repos, mais pas d'attroupement, pas de tapage. Rappelez-vous que notre mère m'a confié ses pouvoirs et que vous avez ratifié sa décision. Bon, j'avoue que je me mordis les lèvres en disant ces derniers mots. Qu'avais-je besoin de leur consentement pour les commander? Mais sous cette république, les plus sincères doivent mentir. Alors m'obéis sans résistance. Ces pauvres gens ne demandaient qu'à dormir. Moi-même, qui n'avais pas fermé l'œil depuis 24 heures, j'eus beaucoup de peine à ne pas me laisser aller au sommeil. Je marchais de long en large en me secouant de mon mieux. Tous mes hommes étaient étendus sous les arbres ou à l'ombre des buissons. Là-bas, sur la route, disparaissait la petite bande que j'avais envoyée à la clairière, et devant moi, à deux doigts du rideau de brouillard, toujours assise à la même place, la sainte Madame Dupin priait sans doute pour son mari. Les yeux lourds et la tête tombante, je m'appuyais un instant contre un arbre, et j'allais, malgré moi, m'assoupir aussi, quand la pensée me vint que j'avais eu tort d'envoyer Jacques Richard sous la tente où nous avions laissé le Camus. Je me dirigeais donc de ce côté pour m'assurer que ce pauvre visionnaire n'avait pas trop à souffrir d'une aussi détestable compagnie. Justement, le Camus sortait de la tente, hâve, tremblant, l'œil fixe comme toujours. Il tenait à la main quelques feuilles volantes, sans doute le rapport que Dupin l'avait prié de faire. « Monsieur, me dit-il, avec une légère irritation qui me parut bien pardonnable, je sais que je n'ai jamais eu à me louer de vous, mais tout de même, vous auriez bien pu ne pas m'envoyer cet ivrogne. J'avais déjà assez de peine dans mon extrême faiblesse à satisfaire le désir de monsieur le maire. Mon bon monsieur le Camus, lui dis-je, vous faites trop d'honneur à ma mémoire. En vérité, je ne pensais plus à vous, ni à la mission que Dupin vous a confiée. Veuillez donc accepter toutes mes excuses. Quant au mauvais vouloir dont j'aurais fait preuve vis-à-vis de vous, laissez-moi vous dire que je suis quelque peu surpris qu'un homme aussi privilégié que vous fasse attention à de pareilles bêtises. Soit dit entre nous, je n'étais pas fâché de rabrouer le personnage. Visionnaire et anarchiste, c'est tout un, et je n'aime pas ces gens-là. Mais sa faiblesse me fit honte. Sans répondre à mes railleries, il promena autour de lui un regard de détresse. « Où puis-je me mettre ? » disait-il. Puis, apercevant Madame Dupin immobile sur la route, « Ah, mais près d'elle » fit-il. Oh, le pauvre homme faisait mal à voir. Ses yeux sortaient de leur orbite, sa face était blême, et il secouait d'une main convulsive les feuilles de son rapport. J'étais navré d'avoir ajouté inconsidérément à tant de misère. « Monsieur, lui dis-je, pardonnez-moi mon étourderie. Je vais vous débarrasser de cet ivrogne. Restez ici et vous y serez beaucoup, beaucoup mieux. »« Non, me dit-il, c'est là qu'il faut que j'aille. » Et son doigt me montrait Madame Dupin. Une plaisanterie me vint aux lèvres. J'allais lui dire qu'il connaissait les bons endroits, mais je me retins à propos et le laissai partir. Il mit un siècle à franchir ce court passage, exténué comme il était. À chaque pas, il me semblait qu'il allait mourir. Je respirais librement quand je le vis enfin arriver au but. Le brouillard commençait-il à se dissiper ? Oh, je ne sais. Mais je croyais distinguer la porte Saint-Lambert. La jolie figure de Madame Dupin se dessinait nettement sur la muraille. Couché aux pieds de cette femme charmante, le Camus défendait ses papiers contre la brise. C'est la dernière chose que je me rappelle. J'ai dû perdre conscience à ce moment-là.
Chapitre 8. Extrait des souvenirs de Madame Dupin de la Clairière, née de Champfleury. J'accompagnais mon mari jusqu'à la porte de la ville. Ne voulant pas le distraire de sa mission, j'étouffais si bien mes pas qu'il n'a pas su que je le suivais. Mais tout mon cœur était là, près de lui, pour le soutenir. Tourmenté de le voir partir, j'aurais souffert plus encore si on avait choisi un autre que lui. Lui ou moi, j'aurais tant voulu que ce fût moi, même et surtout s'il avait fallu une victime pour apaiser la colère des morts. Mais je ne croyais pas à leur colère, ils ne nous veulent que du bien. Enfin, bien vaut peut-être qu'une femme n'ait pas été choisie pour cette ambassade. On n'aurait pas voulu croire à celle de nous qui serait revenue avec la réponse des morts. Quand nous parlons des choses invisibles, les hommes nous prennent pour des hystériques. N'ai jamais bien compris pourquoi. Je me glissais donc derrière mon mari, prêt à le suivre jusqu'au bout. Mais ce bonheur me fut refusé. Une force invisible m'arrêta brusquement à quelques pas de la ville, et j'entendis le bruit de la porte qui se refermait sur lui. Une grande douleur se mêlait à mon angoisse. C'était par lui que notre ville serait sauvée. Je restais donc là pour l'attendre, repassant dans mon esprit les événements de ces derniers jours et suppliant le bon Dieu de mettre un terme à notre épreuve. Car nous aussi, nous avions eu beaucoup à souffrir pendant les 3 jours que nous venions de passer à la clairière. Nous vivions dans une inquiétude incessante au sujet de nos maris qui s'obstinaient à ne pas comprendre la leçon, pourtant si claire que la Providence nous avait donnée, et qui par là appellerait peut-être sur eux de nouveaux malheurs. Grâce à Dieu, Nous avions trop à faire pour nous abandonner à l'obsession de cette épouvante. La clairière n'est qu'une petite maison de campagne, au rien d'un château, et il nous fallait y installer plusieurs familles. Notre premier soin fut pour les enfants, que ces vacances improvisées avaient mis en fête. Les pauvres petits s'étaient emparés du jardin, et leur mère se cachait souvent pour ne pas entendre leurs cris de joie. Agathe de Boissombre surtout, qui est portée plus que moi aux idées noires. Quant aux pauvres femmes que nous avions recueillies, quelques-unes, oh, pas beaucoup, nous causèrent quelque ennui. Elles se mettaient à l'aise dans des fauteuils du salon, se couchaient sur le divan, prenaient leur part de goûter préparé pour les enfants, et ne songeaient d'aucune façon à travailler avec nous. Elles aussi, les pauvres créatures, se croyaient en vacances, et déjà elles avaient tout oublié. Ma belle-mère, indignée, parlait à chaque instant de les mettre à la porte, elle et leurs enfants. J'avais bien du mal à la calmer. Elle est très bonne, mais elle ne peut souffrir les paresseux. Elle me gronda aussi d'avoir donné ma chambre aux malades. « Si tu ne la gardes pas pour toi, me disait-elle, offre-la du moins aux Boissombres. La chambre de Martin n'est pas faite pour ses pauvresses. » Il me semblait au contraire que nous devions leur donner ce que nous avions de mieux et que cette bonne œuvre nous mériterait peut-être la conversion de mon mari. Je le dis à ma belle-mère et cette pensée la fit pleurer, car c'est notre gros chagrin à toutes les deux de sentir que Martin n'a pas sur la religion les mêmes idées que nous. Des enfants dans tous les coins, ma chambre transformée en hôpital, la maison pleine de femmes affolées et inactives, des provisions apportées à nos maris, et on voit que la besogne ne manquait pas. On se fait si vite à ces choses. Sans l'angoisse qui nous martelait le cœur, nous aurions vécu gaiement au milieu de ce branle-bas. Mais nous ne pouvions nous tenir d'aller sans cesse prendre des nouvelles, et de chacune de nos visites, nous revenions plus consternés. La nuit venue, on se relayait sur une petite colline d'où l'on commande ce mur pour voir si rien de nouveau ne se produisait. Agathe de Boissombre, nos enfants toutes les deux et moi, nous avions pris une petite chambre près des combles. Oh, cette pauvre Agathe passait son temps à prier et à pleurer, mais malgré toute sa dévotion, elle n'avait plus de courage. Elle s'imaginait que notre épreuve allait durer jusqu'à la fin du monde. Elle écrivait à son mari de l'emmener ailleurs et de renoncer à ce mur. Elle est faite ainsi. Rien ne lui a jamais manqué et la moindre contrariété l'accable. Pour moi, j'ai bien connu les privations de tout genre dans mon enfance, car mes parents n'étaient pas riches et je n'ai pas grand mérite à souffrir sans trop me plaindre. La dernière nuit que je passais à la clairière, la mère Julie vint nous réveiller en sursaut. Elle avait vu, disait-elle, une procession d'anges envoyés du ciel pour nous reconduire à ce mur. Or, d'un clin d'œil, tout le monde fut sans dessus-dessous. Ils ne savent donc pas comment viennent les anges, voltant près de nous dans la nuit, invisibles, et si légers et parlant si doucement qu'on se demande si on n'est pas le jouet d'un rêve. Ils ne viennent pas en procession, mais un à un seulement, et ils ne se laissent voir qu'au fond de l'âme. C'est ce que j'essayais de dire à mes amis, mais on ne voulait pas m'entendre. Agathe elle-même était ravie de cette vision. Quand le jour fut levé, je pris une corbeille de provisions et je descendis vers la ville. L'idée m'était venue de pénétrer comme je pourrais jusqu'à dans ce mur et de supplier nos morts d'avoir enfin pitié de notre misère. Mais j'aurais réussi peut-être si j'avais eu la force de garder mon destin pour moi seul et de ne rien dire à mon mari. Mais comment l'aurais-je fait? Hélas, maintenant tout est changé. C'est lui qui est parti pour cette ambassade. Il en était plus digne que moi. Sans cela, le bon Dieu l'aurait-il choisi, le bon Dieu qui connaît tous nos secrets, et qui, malgré les apparences, trouve sans doute dans le cœur de mon mari plus de vraie religion que dans le mien. Il y a des choses qui me troublent. Mon mari est le plus honnête homme de Semur, et tant d'autres que je sais, moins bons que lui, font profession de croire et vont à la messe. Et pourtant, vous voyez bien que le bon Dieu l'a choisi de préférence, lui et monsieur le curé, un saint homme, s'il en fut jamais. Il est parti. Que se passe-t-il donc maintenant entre lui et ces êtres qui n'ont pas besoin d'entendre nos paroles pour deviner nos plus intimes pensées? Bon, rien de terrible. C'est une âme si droite et si noble. Moi, j'ai 1000 folies dans le cœur, mais lui... Je pleure en y pensant, mais des larmes de confiance et de joie. Ma petite Marie, ma petite sainte, peut lire dans le cœur de son père. Ce qu'elle y verra, je le sais, ne troublera pas ses yeux d'ange. Je restais ainsi dans une rêverie très douce, attendant sans inquiétude notre salut qui ne pouvait plus tarder. Tout dormait autour de moi. Je me rappelais le psaume « La grâce viendra à mes bien-aimés pendant leur sommeil ». C'est si vrai, mais il est vrai aussi que ceux dont Dieu veut faire les instruments de sa grâce ne doivent pas s'endormir. Peu à peu, tout bruit avait cessé dans le camp. Seul Monsieur de Boissombre était resté debout. Puis je crus apercevoir la silhouette de Monsieur Paul Le Camus. Oh oui, c'était bien lui. Il se dirigeait lentement de mon côté. Le pauvre homme. J'ai eu tant de pitié pour lui depuis la mort de sa femme. Il n'a pas d'enfant. Rien ne le rattache à la vie, et je ne puis vous dire la désolation de ses grands yeux vides. Il s'assit tout près de moi, sans une parole. Il avait l'air d'un agonisant. « Monsieur Le Camus, lui dis-je, vous êtes trop fatigué pour rester ici. Laissez-moi vous conduire quelque part ailleurs où vous seriez mieux. »« C'est vrai, madame, me répondit-il. Cette pierre est un peu dure, mais le soleil me fait du bien. Et puis quand j'aurai écrit ce que monsieur le maire m'a demandé, ce sera fini. Je n'aurai plus besoin de rien. » Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. Je lui demandais de me laisser l'aider un peu. Mais il secoua la tête, cette pauvre tête couverte l'heure de cendre aux yeux ravagés. « 1000 merci, madame, me dit-il avec un sourire, vous êtes si bonne. Mais quand j'aurai fini ma tâche, je serai tout à fait bien. » Mais, monsieur Le Camus, je suis sûr que mon mari, que monsieur le maire, n'a pas eu l'intention de tant vous presser. Non, dit-il, ce n'est pas lui qui me presse, c'est moi. Quel autre que moi pourrait écrire ce qu'il me faut écrire? Je dois le faire pendant qu'il est encore jour. Oh, mais alors, vous avez le temps. Il est encore loin de midi. Venez donc avec moi à la clairière. Nous aurons bien soin de vous, et vous reprendrez vos forces. » Il secoua la tête. « Vous êtes déjà assez occupé à la clairière, » fit-il. Et prenant son crayon, il se mit à écrire. Après un peu de temps, comme il s'arrêtait, je me hasardais à lui parler de nouveau. « Monsieur Le Camus, ceux qui sont à ce mur... « Est-ce bien, en vérité, ce que nous avons connu ?» Il tourna sur moi ses yeux vides. « Est-ce bien Madame Dupin, me dit-il, qui peut me faire cette question ?»« Non, non, répondis-je vivement, vous avez raison. Je les ai vus, je les ai entendus. Et cependant, que voulez-vous, un peu après, on n'ose plus y croire, on se demande... N'était-ce pas un rêve? C'est bien là ce qui me fait peur, moi aussi, malgré tout ce qui m'est arrivé. Si je continuais de vivre, je me demanderais comme vous, n'est-ce pas un rêve? Monsieur le Camus, pardonnez-moi si je vous fais de la peine, mais elle, l'avez-vous vue? Non, voir, qu'est-ce que voir? Oh, mes yeux de chair voient si peu de choses. Mais par bonheur, nous n'avons pas que nos yeux. Elle était avec moi, tout près de moi, plus près encore qu'autrefois. Un éclair étrange passa dans ses prunelles creuses. Voir n'est pas tout, madame. Non, monsieur le Camus. Moi, j'ai entendu la chère voix de ma petite Marie. Il me corrigea brusquement. Entendre non plus n'est pas tout. Elle ne m'a pas parlé, mais elle était là. À quoi bon parler quand le cœur de l'un se déverre dans celui de l'autre? Bon, mais cela ne durait qu'une seconde, madame, moins qu'une seconde. Je lui tendis la main, impuissante à lui dire ce qui m'étouffait. Quoi donc? Était-ce possible qu'elle fût partie si vite, qu'elle l'ait laissé, lui, si faible, si désolé, si seul? Il continuait lentement. Oh, y a qu'une petite seconde. J'ai entendu d'autres voix, mais pas la sienne, et je crois vraiment que j'aime mieux cela. J'aime mieux ne pas la voir, ne pas l'entendre, jusqu'à ce que. Oh, monsieur le Camus, lui dis-je, je suis moins sainte que vous. Les voir, les entendre, je le voudrais tant. Non, chère madame, non. Jusqu'à ce que. Oh, mais le temps presse, ils viennent, ils viennent, je dois achever ma tâche. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire, mais je ne lui posais plus de questions. Tout était merveilleusement calme autour de nous, et je me sentais couler doucement dans cette immense quiétude. Me suis-je endormi? Je ne sais, mais j'ai fait un rêve. Cette enfant qui était là près de moi, pourquoi me cachait-elle son visage? Ses yeux, ses traits, je cherchais en vain à la saisir, à la reconnaître. Enfin, elle se laissa voir dans une longue caresse. Vous n'avez pas besoin que je vous dise son nom. Et moi, je criais à Dieu qu'il avait bien fait de me l'enlever. Et que pour cette minute d'extase, je donnerais toutes les joies de ma vie. Était-ce un rêve? La vision passa trop vite. Bientôt, je me retrouvai appuyé contre le mur et le soleil dans les yeux. Une main était sur la mienne. Mon mari, mon enfant peut-être? Non, c'était Monsieur le Camus. Il était là, toujours près de moi, les nerfs raidis par une tension suprême, les yeux, oh, des yeux de flamme, fixés dans les airs, très haut au-dessus de nos têtes, et il m'étreignait douloureusement le bras de sa main crispée. Ces quelques secondes me parurent infiniment longues, tant j'avais peur. Écoutez, me disait-il d'une voix de plus en plus forte et bientôt triomphante, écoutez, ils arrivent, les voici. À ce moment même, les cloches de la cathédrale se mirent à sonner, joyeuses comme au jour de Pâques. D'un seul bond, tous ceux qui dormaient là-bas se levèrent, mais j'eus à peine le temps de les voir. Un poids glacé pesait sur mon bras. S'appuyant à moi des deux mains, Monsieur le Camus se dressait péniblement sur ses jambes tremblantes. Je poussai un grand cri. Sa figure était toute changée, souriante maintenant et baignée dans une lumière ineffable. Ses lèvres murmuraient je ne sais quelle parole. Il mourut ainsi debout, les bras levés au ciel, puis il retomba sur le sol. Alors, il me sembla qu'une immense multitude en marche passait près de moi et m'écartait doucement. Une voix m'appelait. Adieu, ma sœur, disait-elle. Ma sœur, c'est un autre mot que j'aurais voulu entendre. Pourquoi ma petite Marie ne m'a-t-elle pas dit adieu? C'est là tout ce que je me rappelle. J'ai dû perdre connaissance à ce moment-là.